Eh bien, bonsoir, et je me réjouis moi aussi d'être des vôtres. Me présenter, ben, mon nom c'est Jean-Denis, on dit en français Krege, mais ça se dit Krege en allemand. C'est mon arrière-grand-père qui est venu d'Allemagne en Suisse, et nous sommes depuis trois générations, maintenant quatre, en Suisse et des Suisses. J'ai été pasteur à Paris une fois, quatre endroits dans le canton de Vaud, en Suisse romande. J'ai un petit peu enseigné de la théologie à Montpellier, à Neuchâtel, et puis différents endroits, mais enfin c'est moindre que cela. Voilà pour l'essentiel. Et puis j'aime écrire, et depuis 92, j'ai écrit maintenant 8 ou 9 livres, dont le dernier m'a fait venir ici, puisque Marie-Christine a repéré le titre de mon livre et son contenu, qui s'appelle « Crise et foi », qui est paru en février dernier, les questions que la Covid-19 pose aux chrétiens. Alors, je vous explique un tout petit peu comment j'ai rédigé ce livre. Ben, comme vous, j'ai été confiné entre mars et juin 2020. En Suisse, on était un petit peu moins confiné qu'en France, c'est-à-dire qu'on pouvait plus facilement sortir et aller se balader, etc. Donc je partageais mes journées entre la matinée à écrire et l'après-midi, il faisait beau temps, à me promener, ce que j'adore faire. Et en réfléchissant, pendant qu'on marche, c'est le meilleur moyen de penser. Et j'ai commencé à noter des choses, étant surtout furieux parce que quand je me greffais sur un site internet d'une église ou d'une autre, je suis à coquiner avec plusieurs églises protestantes parce que ma femme est irlandaise, elle est organiste, elle joue dans des églises anglophones et des églises francophones, etc. Donc, chaque fois, je voyais que ces églises ou les messages du dimanche qui étaient transmis sur Facebook ou sur Internet en général, on parlait très peu ou quasiment pas de la Covid ou du Covid. Je me suis dit, les églises n'ont franchement pas grand-chose, voire rien à dire à ce propos, et même au niveau officiel, dans les papiers que je reçois encore en tant que retraité, eh bien non, il n'y avait rien, sinon des appels à la solidarité, mais ça promenait de partout, il n'y a pas besoin d'être église pour être solidaire, des appels, des recommandations sur les mesures sanitaires à prendre, bon, très bien, mais je me disais... théologiquement, d'une réflexion un peu plus profonde, je ne voyais rien. Alors je me suis mis à écrire et en sont résultés 15 petits chapitres de cet ouvrage qui a eu quelques tribulations entre, disons, l'été 2020 et puis sa parution en 2021. C'est assez rapide comme parution pour dans le monde protestant. C'est paru aux éditions Olivetan à Lyon. Et donc, ce soir, je vais repartir de certains éléments de mon livre. Je ne vais pas tout vous présenter, loin de là, parce que mon idée est la suivante. C'est de parler de la crise en général. Donc, votre titre, c'est « Faut-il passer par des crises pour évoluer ?» La réponse, c'est oui, mais je n'ai pas encore dit grand-chose. Il faut dire comment est-ce qu'on peut évoluer à partir des crises, en quoi est-ce qu'elles peuvent nous faire évoluer et en quoi est-ce que le christianisme, à mon sens, permet de... c'est pas exclusif, hein, une autre religion le pourra aussi, il n'y a pas de problème à mes yeux, mais en quoi le christianisme que je représente permet d'évoluer aussi personnellement suite à une crise. Maintenant, crise, c'est un peu mon introduction. On peut la prendre au niveau de ce qui nous concerne le plus immédiatement, c'est-à-dire la crise qu'on dit sanitaire, celle provoquée par le virus, mais ça peut être aussi n'importe quelle crise. Ça peut être une crise économique, on en a vécu encore il n'y a pas si longtemps, 2008, qui était une crise importante, j'ai encore des souvenirs assez... Et puis il y a la crise écologique qui me semble... être un petit peu parfois laissé de côté par rapport à la crise sanitaire, parce qu'elle nous concerne davantage, mais elle nous menace bien davantage, encore la crise écologique. Il y a des crises identitaires personnelles, il y a des crises familiales, il y a des crises d'adolescents, etc. Et toutes ces crises ont des éléments communs, sinon on ne les appellerait pas des crises. Et ça, je vais essayer, justement, dans un premier temps, de, même assez rapidement, de décrire ce que j'appelle une crise et quelques éléments caractéristiques. Deuxième partie, ce sera d'essayer de réfléchir à la façon dont nous, individus, réagissons à une crise. Ce qui m'intéresse en tant que chrétien, c'est effectivement la réaction individuelle à une situation. Pour un chrétien, Dieu s'est incarné en Jésus de Nazareth, un individu, et il me rencontre personne à personne, les yeux dans les yeux, face à face. C'est en ce sens-là, il me prend à partie en tant que personne, et s'il me répond à mes questionnements, eh bien, c'est aussi en tant que personne qui... Donc, je ne fais pas un travail de sociologue ici, je ne fais pas un travail d'économiste, il y en a d'autres qui savent très bien faire ça, mais ce n'est pas ma spécialité. Je ne parle pas de médecine non plus, je ne suis de loin pas versé dans la matière, même si j'ai une fille qui est médecin, mais enfin, on en parle, et on a des disputes à propos de la façon dont la médecine aussi traite et ne prend pas parfois en compte l'individualité des patients qu'elle traite. Donc, une crise, alors oui, ça c'était la deuxième point, je ne vous ai pas présenté mon plan. Première réaction personnelle à une crise, qu'est-ce que j'ai dans le papier qui vous a été lu, j'appelle ça la réaction de l'angoisse. Deuxième temps, ça sera comment est-ce que nous répondons à nos angoisses. La plupart du temps, je prendrai un certain nombre d'exemples à tirer de la crise du Covid et d'autres crises. Et puis, troisième temps, comment est-ce que, à mes yeux, la foi chrétienne permet de répondre aux angoisses provoquées par une crise. Donc, introduction, je dirais, ou premier temps si vous préférez, une crise que je ne différencie pas. Il y a certains auteurs, m'a-t-on dit, qui font la différence entre crise et catastrophe. Je parle aussi d'effondrement. Pour moi, c'est un peu tout la même chose. Il y a en France, vous avez un grand mathématicien, topologue, qui s'appelle René Thom, voilà, et qui a écrit une théorie des catastrophes, qui est le manuel en la matière pour les scientifiques, pour définir une catastrophe. Il parle en partie, la plus simple des catastrophes, il y en a sept possibles formellement parlant. La plus simple, c'est ce qu'il appelle la France. Si vous prenez une feuille de papier, que vous la pliez, je ne sais pas si je vais y arriver, voilà, je l'ai eu fait dans une précédente conférence, donc ça doit jouer. Non, mais ça, c'est mieux comme ça. Mettons que vous cheminez tranquillement de votre vie à ce niveau-là, et soudainement, il y a un effondrement, et on passe à un autre niveau. Ça, c'est la catastrophe de base. Mais il y a aussi la possibilité qu'on ne s'effondre pas du tout et qu'on continue normalement. Donc il y a des gens qui subissent une crise, d'autres pas, face à des circonstances similaires. Après ça, on peut faire toutes sortes. Mais je crois que c'est la définition la plus simple que je connaisse, et aussi un peu banale, c'est vrai, mais quand même, ça vaut la peine d'en parler. On a un état relativement stable, une rupture, et puis on retrouve, mais on ne sait pas très bien quand, un nouvel élément stable ou état stable. Et entre ces deux, c'est là que se provoque la crise, c'est là que on se pose pas mal de questions. Parce que la durée de la crise, on ne sait jamais combien de temps elle va durer. Son importance non plus. Il y a un autre scientifique qui s'appelle Per Bach. C'est un Danois qui a travaillé aux États-Unis et qui a fait toute une théorie très scientifique sur les avalanches, les tremblements de terre, choses comme ça, des structures extrêmement polymorphes et avec énormément de paramètres qui entrent en jeu. Et il montre qu'il n'est absolument pas possible de prévoir à l'avance et il le montre scientifiquement à sa manière, on peut savoir qu'il y a tant de fois, 10 fois plus de tremblements de terre sur l'échelle de Richter d'amplitude 3 que d'amplitude 2. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir des tremblements de terre d'amplitude 3. Non, pardon, c'est 3 fois plus de non, c'est 10 fois plus d'amplitude 2 que d'amplitude 3. Et on ne sait pas quand il y aura des tremblements de terre d'amplitude 2, c'est-à-dire qu'on sera à peine, et ceux qu'on commence à sentir en amplitude 3, par exemple. Donc, imprédictible, la survenance de la crise, on ne s'y attendait vraiment pas. À part quelques spécialistes, peut-être, entre, disons, décembre 2019 et février-mars 2020, c'était extrêmement rapide, quoi. Personne n'avait pensé, si, des spécialistes avaient pensé que des pandémies pouvaient se développer, mais enfin bon. La crise écologique, ça fait plus longtemps, alors, elle, qu'on en parle, mais c'est la même chose. Combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va pouvoir prendre des mesures suffisantes pour pouvoir y réagir? Personne ne sait quoi que ce soit à ce niveau-là. Et puis, il y a une troisième caractéristique, effondrement qui provoque un choc, durée et importance indéterminée. Et puis, il y a des crises dans l'évolution qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Nous, on parle de crise essentiellement quand ça nous fait mal et qu'il y a un changement radical. Mais les biologistes ou les paléontologues nous parlent de moments où tout d'un coup, c'est par exemple Gould qui a toutes sortes de démonstrations à ce propos, où il y a des sauts, non pas des effondrements, mais des sauts qualitatifs, l'apparition de la vie, l'apparition de la conscience, des choses comme ça, dans l'évolution du monde. Donc, il faudra aussi peut-être tenir compte du fait qu'il peut y avoir des crises qui sont positives et en ce sens-là, qui nous permettent d'évoluer aussi. Et il y a cet aspect toujours positif et négatif. Les réactions qui sont les nôtres habituellement à toute crise, c'est, qui sont nos réactions personnelles, c'est ce que j'appelle dans mon bouquin l'angoisse. Je peux peut-être vous en dire un petit bout, ça fait de la réclame, et puis ça permet de montrer un peu le style de ce que j'ai écrit, d'autant qu'il vous sera possible...
Certains se posent la question, si vous voulez le livre, on mettra une petite feuille à la fin... Vous l'inscrirez, il y a deux librairies excellentes sur Siloé, sur Montbéliard et Belfort. On les commandera, puis on vous les fera passer. On vous appellera.
Mais je vous en prie. La réclame est bienvenue. Alors, c'est dans le chapitre 7 qui s'appelle « Entre angoisse et maîtrise ». Je vais vous parler de maîtrise tout à l'heure. L'expérience de l'angoisse est commune à tous les humains normalement constitués. Elle est systématiquement refoulée. Elle consiste, par exemple, à prendre conscience que peut-être rien n'est vrai, rien n'a de sens, rien n'a de consistance dans la vie, tout peut s'écrouler d'un instant à l'autre. Ou bien, tout est possible, et je ne sais que choisir, parce que de fait, je ne sais pas ce qui est bien ou mal, vrai ou faux, juste ou injuste. Je ne sais jamais si je vais faire le bon choix face à ce qui me menace et pourrait même m'anéantir. Ben voilà, on a tous des angoisses. La plupart du temps, on n'en prend même plus conscience, à moins qu'elles soient vraiment importantes. Mais constamment, il y a ce sentiment que peut-être la vie n'a pas de sens, qu'on est coincé, qu'on n'a plus aucune liberté dans notre vie, qu'on n'arrive pas à coller à soi-même, à être vraiment soi-même, toutes sortes d'expériences de ce type-là qui sont angoissantes. Donc, une crise, quelle qu'elle soit, économique par exemple, nous confronte à nos limites, et être confronté à ces limites, c'est être confronté en un certain sens aussi à notre état de mortel, et ça panique. Est-ce qu'on peut répondre à la question du sens de la vie par rapport à l'existence de la mort? Une crise, ça nous fait sortir de nos habitudes. Et on aime bien avoir des habitudes, on a besoin d'habitudes, ça a une perte de confort. Tout ça, c'est, ça nous secoue et ça fait que ressortent des questionnements que j'ai développés sous forme de trois grandes questions dans ma théologie en général, mais dans ce livre en particulier. Il y a, je viens d'en parler, la question du sens de la vie. Pourquoi je suis sur Terre? Dans quelle direction je dois l'orienter? Est-ce que je peux répondre à cette question? Il y a la question de la vérité de ma vie. Comment vraiment être vraiment moi-même, authentiquement moi-même, collé à ce que j'ai à être, ce que j'aimerais être. Et il y a toujours, comment est-ce qu'on dit ça en français, une tension, une distance entre ce que je voudrais et ce que je fais. L'apôtre Paul en parle au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas, par exemple. La vérité de notre vie, ça c'est aussi le grand thème de l'Évangile de Jean. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène à la vraie vie. Et puis, il y a une troisième question qui sera celle à laquelle je vais plutôt m'arrêter ce soir, parce que je ne peux pas traiter, je vous le disais, de tout. C'est la question de la liberté ou de la destinée. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre, non pas dans l'idée du sens de ma vie, mais je suis déterminé par tellement de choses que je suis ici ballotté par les événements. Il y a une crise qui se produit justement. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il me reste encore une liberté? C'est ce que je dirais, la question surtout de la liberté et de la maîtrise de ma vie. Ou bien est-ce que je suis constamment maîtrisé par ce avec quoi je suis en relation d'une façon ou d'une autre constamment? Pour caractériser l'angoisse, je me réfère encore explicitement dans le livre, mais ici ce soir aussi, à un philosophe et théologien danois qui s'appelle Søren Kierkegaard. Et Kierkegaard a écrit un traité pour essayer de saisir ce qu'est l'angoisse. Et il a plusieurs définitions dans ce traité, mais l'une qui me semble assez parlante, c'est de dire, quand on est angoissé, c'est comme quand on a le vertige. Le vertige, on est à la fois repoussé par le vide qui nous attire, qu'on ne veut surtout pas tomber dans ce vide, mais en même temps, justement, ce vide nous attire. Et il y a ce double mouvement d'attirance et de répulsion. Et dans l'angoisse, c'est la même chose. Dans mon entourage aussi, la réaction au début de la première vague de Covid, j'ai eu cette réaction, c'est une chance, on va pouvoir vivre autrement. Après, il y a des choses qui vont pouvoir changer. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait encore changé, mais ça, c'est un autre problème. On a repris la vie d'avant. Une crise, elle peut être pour en tout cas un certain nombre d'entre nous quelque chose qui nous attire, mais en même temps, elle nous menace. On était, en tout cas au début, tous menacés de Covid grave, voire de mort d'une façon ou d'une autre. Donc, là aussi, dans l'idée d'angoisse, je dirais, il y a une réponse déjà à la question que vous posez. Faut-il passer par des crises pour évoluer? Dans la mesure où les crises provoquent de l'angoisse, effectivement, elles vont nous permettre de remettre des choses autrement en place que nous ne le faisions peut-être auparavant, et donc permettre une évolution. Mon deuxième temps, c'est pour dire que à l'angoisse, nous essayons toujours de répondre, parce que c'est insupportable de vivre constamment angoissé. La maladie mentale est une façon de répondre à nos angoisses les plus vives, mais constamment, nous essayons. Et là, je vais m'arrêter sur une des façons que nous avons, qui me semble essentielle. Et lorsque j'ai écrit la conclusion de mon livre, c'est ce que j'ai retenu, parce que ça me semblait être le fil conducteur un petit peu de ma réflexion sur la crise sanitaire. C'est qu'on essaye de maîtriser la situation, de maîtriser sa vie, parce que la crise nous maîtrise, nous enlève nos libertés. Et donc, on va essayer de répondre par ce thème nous considérer comme étant malgré tout libres par rapport à cette crise qui nous déstabilise, qui nous enlève notre liberté, qui nous aliène en ce sens-là. C'est pas pour rien du reste que vous avez en France, comme nous avons en Suisse, des grosses manifestations, mais enfin, pas si grosses que ça quand même, à propos de la liberté qui nous est enlevée par l'État à cause des mesures qu'il faut prendre pour combattre le Covid. Et c'est en fait le Covid lui-même qui nous enlève nos libertés dans la mentalité qui est là derrière. La première réaction qu'on a eue un peu partout, je suis aussi l'actualité justement en Irlande, en Grande-Bretagne, c'est que dans les premières semaines après qu'on a décidé qu'il fallait faire quelque chose, on a donné à la population à faire quelque chose. Chez nous, en tout cas, on nous a dit qu'il fallait utiliser des gels hydroalcooliques, qu'il fallait avoir des distances. On ne savait pas très bien que faire, apparemment, parmi les autorités sanitaires. Ils étaient vraiment pris au dépourvu. Il n'y avait pas encore en suffisance de masques, en tout cas chez nous. Et puis le masque, j'explique là-dedans, ce n'était pas la première mesure peut-être à prendre. Mais faire quelque chose, une œuvre, comme on dirait en langage religieux, se laver. Et il y a eu une sorte de rite qui s'est institué, qui faisait qu'on avait l'impression de faire quelque chose pour se protéger. Donc ça, c'est un premier symptôme de cette volonté de maîtriser la situation par l'ensemble de la population. Je suis assez frappé, en m'intéressant à la crise écologique, par exemple, on privilégie des choses qui sont faisables pour l'ensemble de la population, genre mettre des panneaux solaires sur sa maison, éventuellement construire des éoliennes petites ou grandes, des choses comme ça. C'est quand même moindre que de construire de nouvelles centrales nucléaires ou d'utiliser la géothermie de façon vraiment importante. Parce qu'on donne l'impression qu'au moins on peut faire quelque chose, même s'il y a toutes sortes de problèmes qui sont liés avec les panneaux solaires ou les éoliennes, parce que enfin, finalement le rendement n'est pas aussi intéressant qu'on peut l'imaginer, qu'on nous fait croire, parce qu'on produit l'électricité à des moments où on n'en a peut-être pas besoin et on a de la difficulté à le stocker, etc. etc. Donc faire quelque chose. Il y a une autre façon d'essayer de maîtriser, c'est de prévoir. Je vous le disais, je ne vous l'ai pas encore dit, les politiciens se sont rués, pour certains, sur les crises, quelles qu'elles soient, pour essayer de réconforter la population, de leur dire « nous avons la recette pour pouvoir nous sortir de la crise ». En tout cas, je parlerai de ce que je connais, dont je peux parler allègrement, c'est la situation suisse. On nous a dit, en mars 2020, la crise de la Covid, il y en a pour une saison de grippe, c'est-à-dire 5, 6, peut-être 7 semaines, après quoi ça devrait retomber, ça sera fini. Monsieur Trump annonçait que Noël 2020, le virus serait vaincu et qu'on pourrait fêter Noël normalement. Toutes sortes d'utilisations comme ça, qui sont entendues par la population, parce qu'on a besoin justement qu'on nous dise on maîtrise quand même la situation, on n'est pas complètement dépourvu, on n'est pas complètement passif par rapport à la situation. Mais encore, il faut que les annonces soient positives, parce que les experts qui jouent les Cassandres, eh bien, on les écoute pas. Au contraire, on a dû mettre des gardes du corps, ce qui est arrivé, ça arrive extrêmement rarement, au Conseil fédéral qui s'occupe du ministère de l'Intérieur, et chez nous, c'est le ministère de la Santé aussi, parce que régulièrement, il annonçait des mauvaises nouvelles et qu'il y avait des gens qui voulaient sa peau, carrément. On a besoin de prévision, on a besoin de se rassurer et d'essayer de montrer qu'on maîtrise la situation. Mais je vous parlais de Père Bach qui disait les futurologues, ils me font doucement rigoler en tant que scientifique, parce qu'on ne peut rien prévoir, prédire. On peut estimer qu'il y aura des tendances, plusieurs tendances, mais on ne sait pas quelle chance il y a qu'elles se réalisent. Et si vous prenez tout ce qui a été prévu, etc., alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des plans, mais quand même, il faut en avoir plusieurs, et il n'y a aucune certitude, et on n'est pas, lorsqu'on est en tout cas dans des systèmes complexes, on ne peut pas faire des prévisions. Quand vous êtes dans des sciences assez simples comme la physique, moi je ne connais rien, mais enfin, vous avez des équations qui vous permettent de calculer des choses. Le retour d'une comète, on peut vous le dire, à telle heure, tel jour, lorsque vous êtes à tel endroit sur la Terre, vous verrez la comète X ou Y apparaître dans 2 siècles. Et la prévision est juste. Mais prévoir quelque chose d'aussi complexe que le développement d'un virus, personne ne le peut. Une autre façon de tenter de maîtriser la situation, c'est lorsqu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, c'est qu'il faut trouver le coupable. On cherche des causes, ça c'est la tâche de la science, mais ce que j'appelle le scientisme, c'est ce qui fonde nos théories du complot. Les théories du complot, elles essayent d'expliquer l'inexplicable, justement. Le coupable, c'est, alors, moi j'ai entendu toutes sortes de choses, la jet set qui se réunissait dans les stations de sport d'hiver en Autriche, en France et en Suisse, pendant l'hiver 2020, et ça s'est répandu. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques clusters, comme on appelle ça, qui ont eu lieu à partir de là, mais c'est pas du tout la cause principale. Ou bien on va chercher à Wuhan en Chine. Alors il y a une usine, non pardon, un laboratoire qui fait des recherches sur les coronavirus. Alors c'est l'OMS qui a été chargé d'aller voir, et puis on est revenu un peu bredouille. On est au marché de Wuhan. On a besoin d'expliquer les choses, d'avoir une cause à tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous met en question, pour essayer de pouvoir le maîtriser. J'ai pas l'impression que ça nous aiderait beaucoup de savoir d'où provient, Pékin, d'où provient le coronavirus. Pour les scientifiques qui s'occupent des virus, certainement, oui. Pour éviter que la prochaine pandémie, elle se développe sans qu'on puisse la prévoir et sans qu'on puisse surtout réagir extrêmement rapidement à son développement. Mais pour nous, il s'agit de résister, de vivre dans le présent, de résister à la situation. Alors là, j'aimerais faire une parenthèse, c'est que assez rapidement, on a dit que c'était Dieu qui était le coupable. En tout cas, dans certains milieux, ou bien on a posé la question, mais votre Dieu, qu'est-ce qu'il fabrique en permettant qu'il y ait une pareille pandémie, que l'économie s'arrête, que... on soit pareillement entravé dans nos habitudes, dans nos désirs, etc. Et je consacre justement un chapitre à cette question, est-ce que Dieu qui est bon et qui est tout puissant, d'après ce que vous nous dites, ce qu'on me dit, est-ce que ce Dieu n'aurait pas pu intervenir? Pourquoi est-ce qu'il a permis ça? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé cela, etc. Ma réponse, elle est assez simple, c'est que moi je veux bien qu'on dise que Dieu est tout puissant, garder que... Mais lorsqu'on parle d'un Dieu, automatiquement, on dit que c'est l'être, le Seigneur par excellence, le Maître par excellence, puisque je parle de maîtrise, celui qui est libre par excellence. Et Dieu, on ne peut pas projeter sur lui notre idée de toute puissance. Pour un chrétien, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, et sur la croix, Jésus n'était pas tout puissant. Loin de là, au contraire. Et remet en question nos images, nos idées de la toute-puissance, en tout cas de Dieu. Donc Dieu est libre d'être tout-puissant comme il le veut. Il peut l'être dans l'impuissance comme dans des actions, efficaces et importantes, miraculeuses, allons jusqu'à ce terme-là. Donc, moi, je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu la pandémie. Il est libre de ne pas l'avoir voulu, de s'être retiré de les Juifs appellent ça le Tzimtzum, Loria qui a développé cette théorie, qu'après la création, Dieu s'est retiré et laisse la création aller toute seule. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cette idée-là, mais en tout cas, à certains moments, on peut imaginer que Dieu puisse, puisqu'il est Dieu, renoncer à intervenir et à intervenir à d'autres moments. Mais toutes ces recherches en culpabilité me semblent complètement inutiles. Je vous le disais à propos, c'est pas parce que ça serait sorti d'une volière du marché aux animaux de Wuhan, ou bien que ça a été volontairement envoyé par les Chinois qui auraient laissé échapper leur laboratoire des virus, que ça changerait quoi que ce soit. L'important, c'est de vivre dans l'instant, dans le moment, de résister à la situation, de se battre ici et maintenant. Je parlais de Dieu, il y a aussi un de mes collègues zurichois qui a écrit un article qui m'a beaucoup frappé, que j'ai repris en partie et que j'ai développé dans un des chapitres de mon livre, qui montre que avec le Covid, s'est révélé ce qu'il appelle, et ce que je suis entièrement d'accord d'appeler ainsi, parce que je l'avais utilisé déjà dans un précédent ouvrage sur la tentation, ne nous soumet pas à la tentation, que cet ouvrage s'appelle, l'idée que la religion ou l'une des religions laïques qui habite les esprits autour de nous en Occident, c'est la religion du corps, la nature et du corps. Quand on prend sur le lac Léman, lac de Genève, si vous préférez, non, le lac Léman, le bateau en partant de Lausanne pour aller à Évian, lorsqu'on regarde Lausanne, autrefois, on voyait la cathédrale qui était au centre de la ville, qui surplombait tout, comme ça. Dans la cathédrale, il faut bien la chercher. Et vous avez deux éléments visuels qui sont extrêmement importants. D'un côté, c'est l'hôpital universitaire. Et de l'autre côté, le stade de football. Et c'est le corps qui est le centre de notre préoccupation, ce à quoi on est d'accord de faire, par exemple, des sacrifices. Et la crise implique que l'on sacrifie beaucoup d'éléments à la survie de notre corps, à la défense de la nature dans ce qu'elle a de sain par rapport à la nature dans ce qu'elle a de vicié. Sacrifier des libertés, sacrifier de l'argent, on a dépensé quand même des sommes assez considérables qu'on n'aurait jamais pensé que les États pourraient dépenser auparavant face à cette crise. On cherche aussi dans toutes les religions des fautes, des fautifs, des coupables justement. Pour la crise écologique, changeant de registre, c'est la mondialisation, c'est le néo-capitalisme, le capitalisme, c'est l'industrie, il faut revenir à l'âge de pierre, ou à peu près pour certains, parce que c'est là qu'on a fauté. Une religion, elle a besoin, dit mon collègue, aussi de grands prêtres et de sauveurs. Et là, c'est les détenteurs du pouvoir auxquels on a fait une confiance folle au départ. Après coup, pas du tout, mais enfin. Ministre de la Santé, ministre de l'Écologie, parfois. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les élections allemandes, quand même, dernièrement. C'était quand même assez symptomatique, cette montée des partis verts. La prétention des verts à gouverner. Ils n'y arrivent pas, mais enfin bon, c'est une autre chose. Il y a dans toute religion des scribes ou des théologiens, là ce sont les scientifiques qui par rapport à la religion du corps sont, ou la religion de la nature, qui sont mis en évidence, qui sont ceux qui savent. On dénonce ceux qui ont un comportement déviant, les pécheurs, ceux qui ne respectent pas les commandements. J'ai des voisins qui se sont dénoncés les uns les autres à la police parce qu'ils ne respectaient pas les consignes qui leur étaient dictées par la Confédération helvétique, quoi. Enfin, des choses comme ça. On a besoin aussi un certain nombre de réponses de type religieux au nom de cette religion de nature, religion du corps, qu'on donne Et tout ça parce que on a l'impression que cette religion va nous permettre, comme toute religion dans un certain sens, y compris le christianisme, de maîtriser la situation. Dans une religion, il y a des rites qui servent à justement essayer de des rites de passage, tout à fait typiques. Les psychologues, les sociologues étudient ça. Vous avez l'inquiétude à la naissance de votre enfant, est-ce que tout va bien se passer? Ben, on a un rite qui est lié à l'enfance, à peu près dans toutes les religions. Vous avez un rite qui est lié à l'adolescence. Il y a le mariage et puis il y a les obsèques. Voilà, quatre rites qu'on retrouve à peu près dans toutes les religions et qui permettent de maîtriser la situation. Ben, c'est un petit peu ça qu'on fait avec une réponse religieuse à une situation de crise. Il faut que je regarde l'heure, oui, ça passe vite. Je m'arrête là pour les exemples de volonté de maîtrise, pour dire que le christianisme, à mes yeux, représente lui aussi une crise, mais une crise que je disais positive au début, dans la mesure où il met en crise cette volonté de maîtrise. Il vient nous dire, dans la personne de Jésus de Nazareth, on n'est pas capable de maîtriser nous-mêmes notre vie. Et il y a là un retournement assez capital. C'est Dieu qui est le patron, qui est le maître, qui est le seigneur. C'est pas nous. C'est Dieu qui a le pouvoir. Et si nous essayons de prendre sa place, eh bien, c'est ce que on appelle dans le judéo-christianisme le péché, c'est-à-dire la volonté d'être comme Dieu, de prendre la place de Dieu. Genèse 2, Genèse 3, pardon. Donc, le christianisme vient là comme une crise que je dis à mes yeux positive pour mettre en question cette volonté de maîtrise de la crise. Alors, j'en arrive à ma troisième partie. C'est en quoi la foi chrétienne répond à l'angoisse face aux crises qui est provoquée par les crises que nous connaissons. Pour moi, le christianisme, c'est d'abord une parole qui est prononcée par un individu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Parole qu'on pourrait dire parole originelle. On parle de kérigme en grec, ça veut dire message. On parle d'évangile, bonne nouvelle. Cette parole, elle est incarnée par ce personnage et on va retrouver, à mon sens, ces trois dimensions que j'évoquais au tout début. Jésus a été, il y a un célèbre livre qui s'appelle « Jésus, homme libre ». Il a été libre par rapport à la loi, par rapport aux habitudes de son époque. Il a, dans le Sermon sur la montagne, les commandements vous disent, mais moi, je vous dis. C'est comme ça. Et puis, il a non pas seulement été lui-même libre, mais là, il est venu pour libérer. Et si on raconte des guérisons, des miracles de la part de Jésus, c'est toujours pour nous raconter des libérations. Donc, de la part de Dieu, il vient nous apporter la liberté. Par rapport à tout ce qui nous détermine, y compris par rapport à nos crises. Je reviendrai là-dessus. C'est juste introductif. Jésus est venu aussi rencontrer ce qu'on appelait les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas conformes à l'ordre établi, à la loi de l'époque, ou telle qu'elle était interprétée à l'époque, déformation de l'intention profonde de la loi juive, c'est-à-dire ceux qui collaboraient avec les Romains, les péagers, ceux qui étaient prostitués, avec les adultères, avec des païens qui ne respectaient pas la loi juive et étaient exclus du peuple saint, sacré, etc. Il a pactisé avec eux, venant leur dire « Pour Dieu, vous avez une valeur infinie, inconditionnelle ». C'est pas parce que les hommes vous jugent que Dieu vient vous juger et il mange avec eux, il partage leur vie, pas seulement avec eux, c'est vrai, mais aussi avec eux. Donc, pour Jésus vient nous dire cette parole, ta vie a une valeur inconditionnelle. Donc, ta vie a un sens. Parce que si ta vie vaut quelque chose, c'est qu'elle a un sens. On verra, j'essaierai de vous dire un tout petit peu quel sens j'essaye de façon très générale, donner à la vie. Et puis, son enseignement, Jésus vient dire des choses comme si tu veux accéder à la vraie vie, donc c'est le thème de la vérité, là plutôt, il faut renoncer à toi-même, porter ta croix et me suivre. On ne sait pas si c'est vraiment Jésus qui a dit ça, mais en tout cas, c'est dans cette ligne-là qu'il vient répondre à la question de la vérité, de la cohérence, de la plénitude, ou du salut encore de notre vie. Donc, en relation maintenant avec la maîtrise, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je viens de vous dire sur la liberté, le sens et sur la vérité ? Bien, la liberté, elle sera liée à la responsabilité, mais d'abord, la liberté, c'est justement de reconnaître que je ne suis pas libre, c'est Dieu qui est libre, c'est Dieu qui est maître, c'est Dieu qui est le Seigneur. Donc, je suis incapable, par exemple, de maîtriser mon avenir, il ne m'appartient pas. Mais en même temps, puisque cet avenir ne m'appartient pas et qu'il appartient donc à Dieu, cet avenir qui est entre les mains de Dieu et que moi je suis entre les mains de Dieu, cet avenir est ouvert. Il y a une espérance possible. Une espérance qui n'a pas nécessairement un contenu. Ce n'est pas vivre avec les anges dans le ciel ou quelque chose comme ça. L'apôtre Paul parle d'Abraham au chapitre 4 de son épître aux Romains en disant « Abraham crut espérant contre toute espérance ». Abraham, il a une promesse qui lui est faite, à laquelle il croit, part de ce pays, va dans un autre, nouveau pays, je te donnerai cette terre, et tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou que les grains de sable au bord de la mer. Et Abraham est vieilli, sa femme aussi, ils n'ont pas d'enfants. Il en fait un avec la servante de sa femme, mais ensuite, ce n'est pas à ses yeux l'enfant de la promesse. Et finalement, il fait confiance à donc, sa foi. Mais en même temps, cet enfant, au bout de quelques années, Dieu lui demande de le sacrifier. C'est Isaac. Et au dernier moment, vous savez, il va lui désigner un bélier à la place de l'enfant. Il y a là derrière toute une lutte contre des sacrifices d'enfants dans les religions ambiantes du judaïsme ancien. C'est une autre affaire. Mais l'espérance d'Abraham, elle est simplement pure confiance en Dieu, pure confiance qu'on peut suivre la parole de Dieu, que l'avenir lui appartient et que je peux lui faire confiance, je marche là où il me dira et je fais confiance que sa parole est vraie. Mais cette liberté, elle ne va pas sans, justement, responsabilité, celle du chrétien. Ce n'est pas simplement prendre distance à l'égard de toute chose, se détacher de tout parce qu'on fait confiance à Dieu, on est accroché à Dieu seul. C'est aussi se mettre au service du Maître, au service de Dieu, faire sa volonté. Et donc là, il y a des responsabilités. Et la liberté, alors, n'est plus simplement, comme comprise généralement autour de nous aujourd'hui, je suis libre quand je peux faire ce que je veux, mais je suis libre lorsque je peux vivre selon les principes que je me donne, auxquels je m'attache. Et pour un chrétien, ces principes, c'est justement de servir Dieu. Et lorsqu'on dit servir Dieu, bien c'est la première table de la loi du Décalogue, du Mont Sinaï, et la deuxième table, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ça la responsabilité qui est la nôtre. Moi, je traduis ça par quoi ? Ben, résister, non pas construire le royaume de Dieu sur une utopie qui ne se réalisera jamais, mais résister ici et maintenant au mal, parce que c'est là que Dieu veut que je résiste à ce qui est mauvais, au désespoir. Résister à cette volonté désespérée, justement, de vouloir tout maîtriser. Résister à cette volonté de prendre la place de Dieu, ce qu'on appelle le péché, résister à tous les maux, à commencer par lutter contre la maladie, comme lutter contre les effets de l'industrialisation et de la destruction de la nature. Oui, tout ça, donc, mais sans volonté de maîtrise par moi-même, en me comprenant comme étant au service de Dieu. Et il n'y aura pas de raison de désespérer, parce que ce n'est pas seulement mon combat, c'est celui de Dieu, c'est celui de tous ceux qui se mettent au service, eux aussi, de Dieu. Alors, dans mon livre, je donne deux exemples de ce que ça peut vouloir dire, résister. Pour en ajouter un troisième. Je défends, par exemple, l'idée que par rapport à toutes ces personnes qui ont étaient très angoissées parce qu'elles n'avaient pas un revenu régulier, genre des artistes, des gens qui étaient dans la restauration, à cause de la fermeture de tous les théâtres, des concerts, des restaurants, des cafés, etc. Pourquoi pas faire ressurgir cette vieille idée anarchiste du revenu universel de base? On en reparle régulièrement. Chez nous, on a déjà eu une initiative populaire qui a été rejetée il y a plus de 75% de la population, mais on est en train d'en relancer une pour, suite justement à cette expérience du Covid. Pour poser la question, est-ce qu'une crise peut nous faire évoluer? Ben, peut-être que ça pourrait être une chose qui permettrait d'avoir oui, une façon de résister à ce qui provoque l'angoisse chez nous lorsqu'il y a crise. Je prends aussi l'exemple du masque que vous portez allègrement ce soir. Ça, oui, il y a eu pas mal de résistance quand même, et il y en a toujours. Ce qui m'a frappé, c'est que le masque, on nous a dit, il faut se protéger avec un masque. Or, j'ai fait quelques tout petits calculs. On ne pourrait pas respirer à travers un masque qui nous protégerait. Parce que le virus est tellement petit qu'il passe à travers les masques. Par contre, lorsqu'on aspire, par contre, ça empêche le virus d'aller très loin ou trop loin autour de nous. Et pour moi, cette idée que ce n'est pas moi qui suis au centre, mais c'est pour protéger l'autre que je porte un masque, est tout à fait spirituelle et dans ce sens-là, une mise au service de la volonté de Dieu. La même chose pour les injections, c'est pour me protéger, mais c'est aussi et peut-être avant tout pour essayer de créer une immunité collective. Le chrétien aussi est libre par rapport à la question de la décroissance, qui est un énorme problème. On ne va pas réussir simplement avec nos moyens techniques à maîtriser le problème écologique, à mon sens. Il faut changer de mode de vie assez radicalement. Et ça, comment faire? C'est un problème, à mes yeux, et ça m'arrive de prêcher sur ce sujet, un problème spirituel d'importance. Dieu, en étant attaché à Dieu, on peut renoncer à un certain nombre de choses, à commencer par notre foi au progrès quantitatif et le transformer en ce qu'on appelle le progrès qualitatif, par exemple. J'ai déjà dépassé l'heure, mais enfin, je me permets encore de poursuivre un petit peu, donc j'ai un peu de salive. La vérité par rapport à être soi-même, être capable de coller à soi, d'être cohérent avec soi. Dans mon livre, je prends l'exemple de Job, qui subit une crise la plus terrible, peut-être, de tous les personnages de la Bible. Job, c'est un personnage droit, juste, qui croit en Dieu parfaitement. Et Job perd tout. Il perd d'abord ses enfants. Il perd aussi son assurance vieillesse. Il perd ses richesses. Non, d'abord, ça commence par ses richesses. Donc, il devient pauvre comme pas possible. Il perd l'affection de sa femme qui lui dit « Maudit Dieu » et puis il crève. Parce que, il perd son insertion sociale parce qu'il a une maladie de peau. Il perd la santé. Donc, vraiment, il perd tout. Et il y a une quarantaine de chapitres où il se révolte contre Dieu, mais où il discute avec ses amis qui lui disent « il y a bien une faute quelque part ». Il dit « non, moi je ne me sens pas coupable, je n'ai pas commis de faute à l'égard de Dieu, ça ne joue pas ce principe de rétribution là. Si tu as commis une faute, tu vas être puni. Non, dans mon cas, ce n'est pas le cas. » Et tout à la fin, Job retrouve ce qu'il avait perdu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le retrouve différemment de ce qu'il avait au début. Un simple exemple, je ne vais pas rentrer dans l'exégèse de tout le livre de Job, mais au début, Job offre des sacrifices parce que quand ses fils et ses filles se réunissent pour boire et pour manger, ils commettent peut-être quelques erreurs par rapport à Dieu, ils se révoltent ou ils oublient Dieu, quelque chose comme ça. Alors, il offre un sacrifice pour éviter que... Et à la fin, il est tout joyeux de retrouver ses enfants, et il leur donne, y compris à ses fils, qui dans le Proche-Orient ancien est quelque chose d'inimaginable, il leur donne la part d'héritage qui leur revient, y compris à ses filles. Avec une autre façon de voir, il n'est plus en souci à l'égard de ses enfants, mais il arrive à être joyeux, généreux à leur égard. Voilà une façon d'être vrai grâce à la crise que Job a traversée, me semble-t-il. Et puis, dernière chose, la liberté, la vérité, j'en arrive à la question du sens et de la valeur inconditionnelle qui est la nôtre. Être chrétien, c'est se reconnaître comme étant sans valeur par nous-mêmes, mais d'être d'une valeur infinie aux yeux de Dieu. De savoir, en ce sens-là, pécheur, coupé de Dieu, révolté naturellement contre Dieu, etc. Et puis, savoir que toutes nos solutions sont désespérées et donc ne sont pas valables, ne donnent pas de la valeur à notre vie. On a beau faire tous les gestes qu'il faut pour... ça ne veut pas nous éviter d'être désespérés, d'être révoltés, d'être angoissés face au Covid, par exemple. Nous sommes incapables de donner du sens à notre vie. Nous ne sommes pas capables de savoir comment la diriger, dans quelle direction, quelle est la bonne direction, ou pas, tellement il y a de possibilités, et justement, ces possibilités sont angoissantes. Seule notre valeur peut nous être offerte que par Dieu. La justesse de notre vie et la justice de notre vie ne peuvent nous être offertes que par Dieu. Et alors, quel est le sens que Dieu donne à ma vie? J'aimerais peut-être conclure là-dessus. Eh bien, c'est justement, j'en ai déjà parlé directement, mais je n'ai pas appelé ça le sens de ma vie, c'est de défendre la cause de Dieu. C'est ça ce pourquoi je suis sur Terre. C'est ça qui doit orienter, défendre la cause de Dieu contre l'ennui, contre le non-sens, mis en évidence par la crise. Mais défendre la cause de Dieu, c'est aussi défendre la cause de l'homme, parce que Dieu croit en l'homme, espère en l'homme. Donc, c'est aimer son prochain, sans s'oublier soi-même, parce qu'on ne doit pas non plus se sacrifier nécessairement pour l'autre. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Donc, aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Voilà le sens qu'en une phrase, j'essaye de donner à ma vie en tant que chrétien. Il y a la fondatrice de la science chrétienne, ça n'a rien à voir avec le christianisme, la science chrétienne, qui exigeait de ses prédicateurs, lorsqu'elle a répandu sa doctrine, qu'ils soient capables de résumer la science chrétienne en le temps qu'on restait debout sur un seul pied. Bien, pour moi, c'est le sens de la vie m'est donné par le service de Dieu, de tout mon être, c'est-à-dire aussi de mon prochain comme de moi-même.